Merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste.
Une émission conjointe, si j'ose dire.
Oh bah oui, conjointe, des chroniques syndicales.
Et de la philanthropie de l'ouvrier charpentier, en compagnie de Gérard Da Silva.
Oui, pour sa réédition du livre La Confédération Générale du Travail, précédé du discours de Marc Blondel du 23-09-95, tenu à Limoges, pour les 100 ans de la CGT.
Voilà, et bien sûr...
Et la totale.
Pouget, quoi.
Pouget, ah oui, Pouget, Émile Pouget.
Émile.
Bon, la première chose, c'est pourquoi tu as réédité ?
Eh bien, j'ai réédité ce texte de 1908 à cause de sa grande actualité. C'est-à-dire que on peut faire un bilan de ce qui s'est passé ces 4-5 dernières années. Il y a une dérive corporatiste très problématique à la direction de certaines organisations syndicales, où manifestement la notion de mandat a complètement disparu, et on se retrouve face au gouvernement, et on peut signer n'importe quel type d'accord, y compris des accords qui sont contraires aux intérêts les plus élémentaires des travailleurs. Alors je donnerai un exemple. En mai 2019, deux organisations syndicales, c'est-à-dire leur direction, ont signé la décote à 64 ans, c'est-à-dire la CFDT, ce qui n'est pas une surprise, puisque c'est le rôle de la CFDT depuis qu'elle existe, d'être avec le gouvernement et le patronat. En revanche, grosse nouveauté, Force ouvrière a signé ça, alors que toutes les résolutions générales des congrès confédéraux condamnent la décote, depuis toujours. Donc on voit bien que là, il y a une violation du mandat, et que des bureaucrates ou syndicalistes s'arrogent le droit de signer n'importe quoi. Et après, ça pose un gros problème, parce que l'année dernière, on a eu droit à de grandes manifestations pour la défense de la retraite par répartition. Le problème, c'est qu'on a fait le rapport de force avec la CFDT, qui, deux ans avant, nous avait expliqué qu'il fallait détruire le système par répartition pour mettre en place la retraite par points. Ben, comment veux-tu créer un rapport de force avec des gens qui sont pour la destruction du système par répartition deux ans avant encore? Donc on est dans une espèce de dérive extrêmement grave qui s'est traduite pendant que les gens manifestaient dans toute la France. Il y avait plus d'un million de personnes dans toute la France. Dans ce sens-là, les deux directions FO et CFDT ont signé un accord avec Macron, ce qu'ils appellent partage de la valeur, et dedans est intégré le principe de système de retraite d'entreprise. C'est-à-dire le contraire du système par répartition, ce qu'on appelle classiquement le coup de poignard dans le dos, quoi. Donc je me suis dit, dans la dérive totale où nous sommes, Pouget est de pleine actualité, parce que lui, il écrit son bouquin alors que la CGT, elle est toute jeune, mais elle commence déjà à avoir des résultats, en particulier le 1er mai 1906, l'idée de... du travail le dimanche, qui est une très vieille revendication qui date de janvier 1869. Et donc, lui, il fait un premier bilan des résultats de la CGT et de son action. Et ça donne ce livre-là, qui est écrit en plein mouvement, en quelque sorte. Mais quand il écrit ça, il a de la bouteille. Hein, c'est-à-dire qu'il a co-rédigé avec Riffut la charte d'Amiens deux ans auparavant. Donc, il est le journaliste par excellence de la CGT. Il faut bien le dire, hein, le propagandiste par excellence. Donc, il est la personne la mieux placée pour écrire ce livre. Et puis, il est aussi l'auteur du Père Pénard. Donc, à ce moment-là, il est déjà extrêmement reconnu comme personne. Alors, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de montrer que on a des leçons encore à apprendre en termes de mobilisation syndicale, de fonctionnement de l'organisation syndicale et du respect du mandat, puisque c'est écrit dans le bouquin de Pouget.
Alors, moi, je te propose, c'est que tu nous fasses quand même une petite présentation de Pouget avant, c'est-à-dire avant cette partie CGT, parce qu'il a, quand tu dis qu'il a une maturité dans l'écriture, il a une maturité dans les idées, ça vient pas de n'importe où. C'est-à-dire, il a quand même beaucoup milité, dans la presse, il a toujours fait des journaux, ça a toujours passionné. Alors, est-ce que tu pourrais nous le présenter un petit peu quand même?
En fait, lui, c'est vraiment un rédacteur, hein. C'est-à-dire qu'il a un style extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que il se situe dans une tradition qui est un peu la sienne. Hein. On peut dire qu'au niveau du style, son maître, c'est Rabelais. Donc, il ne faut pas s'attendre de sa part à du politiquement correct.
Oui, mais de la vie.
C'est pas du tout ça. Donc, le père Pénard, par exemple, il cite Rabelais, « Odieux père paterne qui mua l'eau en vin, fait de mon cul en terme pour luire à mon voisin. » C'est un peu le genre de façon de dire les choses. Et puis l'autre, c'est quand même la Révolution française, où quand on ouvre le bouquin, il y a l'équivalent des mois révolutionnaires actualisés année après année. Donc on voit qu'il veut se situer dans cette tradition, et ça donne des résultats. Alors évidemment, il est très anard, on le voit dans la chanson du Père Pénard, hein, puisqu'il il y a même une chanson du Père Pénard. Alors je vous lis la première partie, c'est « J'ai soupé de la politique, les politiciens nous font une république bonne à foutre aux chiens. Peuple, sois donc plus si flemme au lieu d'être votard, fais donc tes affaires toi-même, te dit le Père Pénard. » Donc c'est tout un programme.
Oui,
c'est tout un programme, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est en 1895, 98, ça commence en 1895. Et il a déjà toutes les idées qu'on va retrouver dans la CGT de 1908. Mmh. Il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la grève générale, il développe ce que c'est que la grève générale, dont il raconte l'origine aux États-Unis, etc. Et puis alors, il y a une chose très importante, ça aussi, je vais me permettre de lire le petit article qui est dans le Père Pénard, parce que c'est vraiment une question de fond, ça, mine de rien. Toujours le même manque de jugeote révolutionnaire. On ne se rend pas assez compte qu'en régime général, l'état intellectuel du populo est subordonné à son état matériel, qu'en conséquence, il est absurde de vouloir que tous les cerveaux soient décrassés avant qu'éclate la révolution. Par exemple, si les Parisiens avaient attendu d'être tous d'accord pour prendre la Bastille, cette sacrée nom de Dieu de prison bouchera encore le faubourg Saint-Antoine. De même, au 10 août 1792, les insurgés ne demandèrent pas l'assentiment général. Pour marcher sur les Tuileries, ils foncèrent carrément. Donc, alors ça, c'est un problème de fond, puisqu'actuellement, on est en train de demander que les syndicats se comportent comme des partis. Si tu n'as pas 50 et quelques pourcents, tu peux rien faire.
Et puis tu passes ton temps à bavasser avant.
Et tu bavasses beaucoup, et après tu te mets d'accord, tu sais même pas. Sur
le
quoi
Oui, puis c'est sur le minimalisme automatiquement.
C'est le minimalisme minimaliste, et comme tu fais rentrer des éléments corporatistes, eh ben, tu te mets d'accord sur la base du corporatisme. Oui. Parce que c'est pas le corporatisme qui va se mettre sur ton fonctionnement et tes revendications à toi.
Lui, il l'a bien vu à l'époque.
Oui. C'est le droit des minorités actives à agir en attendant.
Mais c'est ça ce que ça veut dire. Oui. C'est ce qu'il appelle le combat de la minorité pour la majorité. Et pour lui, le syndicalisme, c'est ça. On ne va pas attendre qu'il y ait je ne sais quelles conditions parfaitement remplies. Il faut que le rapport de force soit constitué. On y va. Et c'est vrai que dans le bouquin, il dit que la voix du peuple tire à 7000 exemplaires. Ce n'est pas énorme.
Donc la voix du peuple, c'est quoi?
C'est son journal.
C'est le journal. C'est combien, ça? C'est avant le Père Pénard ou après?
C'est après.
C'est après, d'accord.
C'est après. Bon, d'accord, c'est le début. Hein. Oui, oui. Ça a commencé en 1900. Et donc, les effectifs sont supérieurs à 200 000, dit-il, mais il n'arrive pas à donner un chiffre. Évidemment, là, ça veut bien dire qu'on ne va pas attendre d'être 5 millions avant de considérer qu'on va pouvoir poser des revendications. Donc, c'est vraiment la question de fond qui est posée, c'est-à-dire, du moins, on se situe dans une tradition de gens qui n'ont jamais posé de conditions qui sont celles de la démocratie bourgeoise pour exister, d'où la référence à la Révolution française, la Bastille, les Tuileries, etc. On n'a pas à attendre ça, et si on remplit les conditions, on peut gagner. Quoi.
Ouais, c'est, on peut entraîner tous ceux qui sont indécis.
Tous ceux qui sont indécis, c'est évidemment la grosse idée de bouger. Il est convaincu que ça va fonctionner par phases, et qu'à un moment donné, la phase des phases, c'est que tout le monde est entraîné et la révolution se met en place. Il va donc, après le Père Pénard et après la CGT, il va publier un journal qui s'appelle Révolution et qui ne va pas bien marcher. Ça va lui porter un coup au moral, incontestablement, parce qu'il était convaincu, comme beaucoup de militants de l'époque, hein, beaucoup de militants de l'époque pensaient que la grève générale...
Ça porterait.
Le lendemain, le système capitaliste était foutu à bas, quoi. Il y avait même un jeune avocat, dont c'était le chantre quand il était jeune, qui s'appelait Aristide Briand. Hein,
qui a mal tourné.
Qui, après, est devenu un traître, un vétéré, qui s'était retourné contre Victor Grifful, secrétaire de la CGT. Hein, donc,
lui, il a toujours pensé quand même que sa pratique, c'était l'écriture.
Oui.
L'écriture avec une écriture populaire, lisible, pas une écriture de journaux bourgeois.
Voilà.
C'est-à-dire de façon à toi. Mais il a toujours pensé que cette écriture permettait quand même de changer les idées et d'engager, et entre autres sur l'initiative, moi j'avais appelé individuelle, mais qui n'est pas vraiment individuelle, c'est qu'elle était libre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de rassemblement et de voter pendant des siècles ou des choses dans ce genre-là, quoi. C'est qu'il y avait une... Là, c'était possible de le faire quand on le sentait.
Oui.
C'est une démarche sur l'initiative individuelle qui est quand même intéressante.
Oui, oui. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gars qui est à la fois convaincu que la grève générale va renverser le système, mais en même temps, il ne crache pas sur les revendications. Donc, il est tout à fait d'accord pour les 3-8, par exemple.
Mais parce qu'il est pour un syndicaliste qui fonctionne sur ses deux pieds.
Voilà,
c'est-à-dire à la fois la revendication de l'immédiateté matérielle et la révolution. Quoi.
Donc, on se souvient de la une de l'assiette au beurre du 1er mai 1906, où il y a les 3-8, justement, trois jeunes femmes qui représentent les 3-8. C'est une revendication dont ils pensent que la CGT va l'obtenir.
Ouais, donc, les 3-8, c'est 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs.
C'est ça.
Et sans les transports.
Sans les transports.
Oui, c'est ça. Bon, ça finira par arriver quelques années plus tard. Mais bon, c'est ça son idée. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est quand même très pragmatique, le bouquin. Hein, on n'est pas dans des choses... Donc ça peut être une leçon pour aujourd'hui, parce qu'on a besoin de rétablir le syndicalisme par ses propres moyens, c'est-à-dire sorti de l'ornière... où il se trouve, surtout depuis la loi de 2008, où on te demande de te comporter comme un parti. Alors tu dois faire des campagnes quasi-électoralistes, avoir des votes, des voix, et c'est seulement si tu remplis les conditions que tu as le droit de poser des revendications. Et encore, vous avez vu que le syndicat des petites et moyennes entreprises, il faudrait qu'on supprime tout ça. Et que le candidat du patron puisse se présenter dès le premier tour. Donc,
faut pas oublier que ça lui a coûté très cher dans sa vie quand même. Parce qu'on a l'impression de là, pour l'instant, de voir quelqu'un qui écrit, mais ça lui a coûté de la prison. Ça lui a coûté qu'il ait fallu qu'il se barre en Angleterre ou des trucs dangereux. C'est-à-dire qu'il a quand même une vie assez dure.
Bah, il faut dire
et
que
c'est l'écriture.
Les premières années de la CGT, mine de rien, c'est un peu le foutoir. Hein, quand tu lis les comptes rendus du congrès de 1898, entre les fédérations et les bourses du travail. Alors, qui prend tout ça en main? C'est quand même Victor Griffel. À partir du congrès de 1902 de Montpellier, c'est lui qui donne une véritable dynamique. Et on peut dire que son bras droit, tout ce que tu veux, c'est Pouget.
Oui, c'est-à-dire qu'il rapproche les bourses du travail des fédérations.
Voilà.
Et de la CGT, quoi.
Ils fondent la CGT en 1902, en faisant ça, la vraie fondation,
CGT,
si on veut.
La CGT moderne, quoi.
C'est 1902. Et donc, c'est grâce à Griffel, et c'est pour ça que tous les deux se retrouvent en train de rédiger la charte d'Amiens, qui à l'époque était dans la presse nommée la motion Griffel, d'ailleurs. On l'appelait comme ça. On l'appelait pas du tout la charte d'Amiens. C'est arrivé plus tard. Tous les deux l'ont payé. Hein. C'est pour ça que quand Griffel s'est retrouvé en prison, il avait droit à une campagne contre lui de gens de la CGT qui voulaient le renverser pour mettre quelqu'un de réformiste à sa place. C'était le prix du succès de ce qu'il avait fait, quoi. Donc il fallait le virer. Et ils avaient mis à la place un gars qui s'appelle Niel, je ne sais pas si vous
souvenez
de cet épisode. Puis Niel a été tellement nul, hein, il faut bien le dire, qu'on n'a pas pu le garder. Il est resté, je crois, de février à juin 1909. Et puis c'est là qu'on a fait appel à Jouot, qui avait 30 ans, et qui normalement aurait dû rester le temps qu'on arrive au congrès de Toulouse en 1910. Et normalement, Griffel devait reprendre la main. Et ça n'est jamais arrivé, d'ailleurs.
Voilà, sachant que Jouot naît du mouvement anarchiste.
Ah ben, complètement anarchiste. Ouais, hein. La raison pour laquelle il est élu, c'est parce qu'il est anarchiste, Jouot, en 1909. Ça, c'est sûr. En même temps, comme il n'a que 30 ans, enfin, tous ces types-là sont jeunes.
Oui.
Que ce soit Pouget, Griffel et compagnie, ils sont tous jeunes. Hein. C'est vraiment des militants qui font exister ça. D'ailleurs, si on lit le gros bouquin La CGT de 1925, que la CGT publie pour ses 30 ans, bah, les vieux, il n'y en a pas. C'est tous des jeunes militants qui sont en train de fabriquer leur outil revendicatif. Et effectivement, Jouot va changer. J'ai essayé de voir comment, vers 1912, quelque chose comme ça, parce que j'ai vu qu'il avait publié un bouquin avec une préface de Jaurès. Jouot. Donc j'ai eu le vague sentiment qu'il y avait un rapprochement et qu'à partir de ce moment-là, Jouot, il va être plus... Comme je disais tout à l'heure, révolutionnaire dans les principes et réformiste dans la pratique. Voilà. Et quant à Griffel et Pouget, bah, ils vont être en retrait, ils vont rester à la CGT, mais ils ne seront plus les organisateurs qu'ils étaient jusque-là, hein, et les propagandistes.
Ouais. Et comment tu situes dans cette histoire de Pouget, là, ce roman un petit peu... Comment dire, d'anticipation.
Ah ben justement, moi je
comment
pense
nous
que
ferons la révolution. Comme il est écrit avec Pato.
Oui, voilà. Je
Pato,
pense que
Pato, qui a mal tourné aussi d'ailleurs.
Oui.
Pire que mal tourné.
Excuse-moi, Niel aussi a très mal tourné. Ifto, c'est une catastrophe. Ouais. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est peu de monde quantitativement, mais il y en a quelques-uns qui ont mal tourné. J'étudie un peu la question, c'est souvent les permanents qui tournent mal. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas perdre leur statut.
Ils sont prêts à n'importe quoi. Leur personnalité, leurs avantages.
J'ai pas mal étudié la question de Belin et tout ce qui s'ensuit. Tous ces gens-là sont des permanents. Certains le sont depuis 20 ans, puis ils n'ont pas envie de revenir à la base. Hein. Mmh. Donc on leur dit, c'est la même chose, tu as tout le temps le même strapontin, là. Mmh. Sauf que maintenant, c'est avec le régime de Vichy. Je continue à occuper mon strapontin. Mais c'est quand même une minorité quantitativement, c'est une minorité de permanents. La base, elle ne suit pas du tout. On a des témoignages d'archives comme quoi la base ne suit pas du tout. Mais eux, ça existe. Alors, Griffule va continuer à exister. D'ailleurs, pendant la guerre, il va publier son propre canard contre la guerre, à partir de 1916, Griffule. Et Pouget est à peu près sur cette ligne-là, d'ailleurs.
On se met une petite pointe de musique.
Oui. Alors, Radio Libertaire, donc.
Pardon ?
Radio Libertaire.
Ah, 89.4, hein, j'ai pas de problème.
Une petite pause.
Il est un produit merveilleux, expérimenté par la science, et qui pour nous les miséreux fera naître l'indépendance. Tant mieux s'il éclate parfois, en faisant beaucoup de victimes chez nos ennemis les bourgeois. Cela nous venge de leurs crimes. Placer une marmite pour une dynamite, quelle que soit la saison, en faisant explosion, la nouvelle ira vite. Car pour respirer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. On guillotinera Vachol, un copain qui avait de l'envergure. Aujourd'hui c'est un Espagnol qu'on fusille pour son allure. Va la se montrer à son tour qu'il était un homme invincible. En plus il promettait qu'un jour la vengeance serait terrible. Vive la dynamite, puisque l'on nous hérite. À chaque exécution nous mettrons en action notre arme favorite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. Vous pouvez dresser les chapeaux, la potence et la guillotine. Nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire sauter en sourdine. Si vous croyez que ça finira, vous êtes loin de votre affaire. Pour un homme qu'on nous tuera, nous en foutrons 500 par terre. Avec la dynamite, nous répondrons de suite. Cavernes et prisons, sans flûte et sans violon, danseront au plus vite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite.
Vous êtes sur Radio Libertaire, c'était la chanson La Dynamite. Je repasse le micro au direct.
Radio Libertaire, 89.4.
Oh bah mince alors.
La philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Et les chroniques syndicales.
Pour une émission en commun.
Autour des projets.
Ouais. La Confédération Générale du Travail. Précédé du discours de Marc Blondel du 23-09-95, tenu à Limoges pour les 100 ans de la CGT.
Voilà, en compagnie de Gérard Da Silva,
ah oui, quand même,
qui en a fait la préface.
Quand même. Et je voulais te dire, justement, là, il parle de... La chanson, c'est la dynamique, dynamite. Les positions de Pouget par rapport à ça. Il n'était pas pro, il n'était pas contre, il n'était pas franchement marqué par le fait de la propagande, par le fait, tiens.
Non.
C'était pas...
Il parle dans le bouquin, il parle du sabotage, il parle de l'action directe, mais il énumère les diverses possibilités qui existent. Il parle même du sabotage et du label. Donc aujourd'hui, ouais,
le label syndical.
Le label syndical, qui à l'époque semblait être une idée prometteuse, mais qui n'a pas eu tout à fait le succès.
Qui a un peu fonctionné dans la pression encore quelques fois.
Ça se trouve, de temps en temps. Ouais. Alors pour raconter une vieille histoire, moi j'ai rencontré il y a plus de 50 ans René Lefeuvre, éditions Spartacus, et lui il tenait absolument à ce qu'il ait écrit, imprimé par des ouvriers syndiqués. Dans tous ses bouquins. Voilà. Donc c'était l'histoire du label. Mais bon, après ça fonctionnait pas vraiment. Quoi. C'est une bonne idée, mais ça veut dire que c'est... il est relativement pragmatique, Pouget. Hein. Il énumère toutes les possibilités d'action possibles. Et puis on voit ce qu'on peut faire avec le rapport de force dont on dispose.
Ouais. Je posais tout à l'heure une question avant de parler de l'action, pas seulement l'action directe, mais la propagande par le fait, comme l'a évoqué Philippe. J'ai posé une question autour de comment nous ferons la révolution, qui est donc un ouvrage assez sympathique à lire, qui a été republié par Sileps il y a une quinzaine d'années peut-être.
Oui, oui. Bah, mon hypothèse, qui est parfaitement discutable, c'est que nous pouvons réaliser son rêve révolutionnaire. Dans les faits, il l'a réalisé en écrit. Alors, je ne dis pas que c'est un récit utopique, parce que ça ne veut strictement rien dire. Après tout, depuis Rabelais, on a écrit des récits sur un certain système. Quoique Rabelais, c'est plutôt un système d'éducation, un système social. Et il y a une tradition... y compris une tradition révolutionnaire, et je pense qu'il a voulu réaliser ça pour me faire toucher du doigt que c'était possible. Alors c'est pas comme l'utopie de Thomas More qui est un peu ennuyeuse, si on se dit c'est ça la vie en société, c'est quand même pas très gai. Donc dans le cas de Pouget, c'est quand même, on est quand même dans la tradition rabelaisienne dont je parlais.
Oui.
Mais en même temps, d'un point de vue biographique, c'est vrai qu'une fois qu'il a fait ça, on ne retrouve plus tout à fait le Pouget révolutionnaire assez radical du père Pénard. Comme si quelque chose s'était passé. Alors, il n'est pas le seul, hein, puisqu'il y avait au sein de la CGT un comité pour la grève générale, qui était censé être les plus révolutionnaires de la CGT. Et c'est vrai que quand on lit leurs textes, leurs affiches, qu'on trouve aux archives de la préfecture de police, par exemple, parce que autant les archives syndicales ne sont pas nécessairement très riches, autant la préfecture de police fliquait les syndicalistes comme on ne l'imagine pas.
Ah, mais c'était bien tradition.
Oui, absolument, à un point tel qu'il y avait de l'entrisme, hein, oui, c'est-à-dire qu'il y avait des flics qui prenaient leurs cartes à la CGT pour pouvoir, et il y en avait même un au sein du comité pour la grève générale, on s'en est rendu compte très longtemps après.
Bon, cela dit, ce flicage, c'était le carnet B en 1914, voilà, et c'est fiché S aujourd'hui, hein, c'est une tradition quand même.
Ce genre de tradition, effectivement, et donc dans le cas de Pouget, je crois qu'à un moment donné, il n'est plus tout à fait dans la dynamique initiale de la fin du 19e. Là, quand ils constituent le comité pour la grève générale, ils sont convaincus qu'après une phase d'une grève plus ou moins ample, on va avoir la totale et on aura le changement de société.
D'ailleurs, c'est dans le roman qu'on évoque là, c'est bien suite à la grève générale que la révolution se fait.
C'est normal.
C'est le modèle un
petit peu. C'est la suite logique.
C'est la suite logique. Et alors, comme la suite logique, il ne l'a pas eu dans les faits, il l'a eu dans son roman, pour qu'on comprenne de quoi il retourne. Il ne faut pas oublier que Pouget, c'est un homme intègre. Hein. Je crois qu'il est important de le dire. Alors que si tu vois Yvetot au sein de la CGT, qui est quasiment numéro 2, lui, il est à fond pour la grève générale, pour interdire la guerre, hein, puisqu'il y avait aussi cette idée-là. Que grâce à la grève générale, si jamais il y a des menaces de guerre, tu fais une grève générale et tu empêches la guerre. Et ben, finalement, Yvetot, qui était un peu le champion de cette idée au sein de la CGT, il va se réfugier à Étretat, où il va diriger un orphelinat de victimes de la guerre, et on ne le verra plus. Pendant toute la guerre de 14, à un point tel que la CGT est obligée de l'exclure de ses responsabilités syndicales en janvier 1916, puisqu'il est ailleurs, et un peu comme au Parti Socialiste du Saint-Hervé. C'était le champion de la grève pour arrêter toute guerre, et qui du jour au lendemain devient le plus chauvin des chauvins. Ce sont des choses inattendues, mais ils étaient peut-être un peu trop dans la rhétorique et pas assez dans la pratique. C'est pas le cas de Pouget. Hein. Donc Pouget, il est peut-être moins révolutionnaire qu'il ne l'a été, mais il continue à avoir son idéal. Et c'est ce qu'on trouve encore dans son roman, justement.
Mmh. Oui, mais dans les phases de guerre, on sait très bien qu'il y a des modifications énormes. Je dirais, les anarchistes, je dirais, avant la guerre de 14 et pendant la guerre de 14, il y en a plein qui ont eu des positions extraordinaires, qui deviennent pro-guerre, qui deviennent pro-patriotes ou des choses dans le genre, alors qu'avant la guerre, ils étaient complètement opposés.
Bah, tout le monde était opposé.
Voilà, il y a des modifications qui se créent, mais qui se créent de fait, parce que ça doit, c'est des époques qui sont complètement délirantes. Quoi,
dire, ça, un gars comme Adolphe Mérin des Métaux, qui est le premier à s'opposer, puisque au sein de la CGT, ils se réunissent en août 14. Et il y a ceux, Griffu et Jouhaud, qui pensent qu'il faut suivre le gouvernement à Bordeaux. Mmh. Et Mérin qui dit, non mais nous, on n'a rien à faire d'être collés au gouvernement. Moi, je reste, je suis la CGT à Paris. Je reste là. C'est le premier à s'opposer, mais même lui, il a écrit que dans les premiers jours du mois d'août, c'était de la folie complète. Tu pouvais pas mesurer les réactions des gens. Il y avait un bouleversement complet. C'est la dernière fois que la guerre fait cet état-là. Depuis, à chaque fois qu'on nous fait des effets de vive la guerre, allons-y, c'est fini. Hein, parce qu'on a compris que ça termine par un massacre. Mais là, c'est la dernière fois. Et donc, Mérin, lui, reste à Paris. Du coup, Jouhaud et Griffus vont à Bordeaux. Et à Bordeaux, ils se rendent compte que le gouvernement n'en a strictement rien à foutre d'eux. C'est la raison pour laquelle Jouhaud se dit, bah, bon Dieu, alors Mérin a raison. Et donc, le 26 septembre 1914, dans la bataille syndicaliste, il écrit un texte où on dit on s'est planté, quoi. On n'a pas pris les positions qu'on aurait dû prendre. C'est-à-dire celles d'avant la guerre, justement.
Oui, bien sûr.
C'est ça, le truc.
D'avant la guerre et anti-guerre.
Ce qui va se passer, c'est que Jouhaud va prendre position contre la guerre, mais il va prendre position avec les syndicats anglais et américains, alors que la version léniniste de Rosmer, c'est qu'il fallait prendre position avec Lénine.
Ah oui.
Donc il y a une tradition régulièrement reprise, comme quoi c'est une trahison, qu'il fallait aller avec Lénine, sinon t'es un traître. Et comme Mérin, qui s'était rendu en Suisse pour rencontrer Lénine, ça s'est très mal passé avec Lénine, bah, ils ont mis une croix sur Mérin. Alors que c'est lui le premier. Et à la place, ils ont mis Pierre Monnat. Alors que Monnat a dit, c'est grâce à Mérin que j'ai pris position. Enfin, voilà. C'est compliqué, hein, ce qui se passe dans un mouvement comme ça. Ce sera bien plus clair en 1940. Parce que la leçon est tirée. Ceux qui ont envie de collaborer, c'est qu'ils étaient déjà pour les accords de Munich. Et ils continuent. Et ceux qui sont dans la résistance, ils le sont tout de suite. Il n'y a pas le mouvement de folie du mois d'août 1914.
Oui, la sidération, quoi.
Alors, je suis d'accord, hein, chez les anards, il y avait deux tendances. Il y avait ceux qui étaient plus ou moins pour dire que si on a des camarades allemands pour la paix, on est pour la paix, mais en attendant, on n'est peut-être pas tout à fait pour la paix. Jean Grave, comme ça. Puis Sébastien Faure, qui était plutôt contre, lui. C'est un peu le même clivage pour l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, si je puis dire. Hein. C'est d'ailleurs ceux qui pensent que c'est une affaire
bourgeoise,
donc c'est pas nos oignons. Et puis ceux qui disent que c'est une injustice, donc on combat l'injustice.
Ouais. Voilà. C'est ceux-là, ailleurs, qui finissent par avoir raison.
Ben, ils ont raison dans les deux cas.
Enfin, combattre l'injustice.
Combattre l'injustice et être contre la guerre. Ce sont les mêmes qui vont être contre la guerre. Maintenant, à la fin, tout le monde est contre la guerre. Faut pas croire. Les gens qui restent dans l'Union sacrée pendant 4 ans, il y a Compère Morel au Parti Socialiste, qui est jusqu'au bout dedans, il y a Yvetot à la CGT. Il n'y a pas non plus. Les gens comprennent. Hein,
oui, mais il y a eu les moments de flottement de sidération, comme disait Hugues, on ne sait plus du tout où on va.
Voilà.
Et puis, ça, c'est clair.
Il y a ça, alors il y avait aussi toujours le spectre de la guerre de 70, et tous les revanchards qui avaient dressé les jeunes gens à porter des fusils dans les cours d'école pour aller casser la tête aux Allemands.
Le culte des piou-piou, on n'a aucune idée de ce que ça représentait, alors qu'aujourd'hui, l'armée française, je suis désolé, mais enfin bon, personne n'a envie de s'y retrouver. Hein.
C'est la différence. Qu'aujourd'hui, c'est une armée de guerre civile.
On verra. C'est la différence entre... oui, mais aller se faire tuer, c'est autre chose.
Mais ils ne vont pas se faire tuer, ils vont à la gloire.
Oui, c'est ça. Quand tu lis les journaux de 1914, il y a des journaux qui disaient des trucs délirants. Hein, que les balles allemandes traversaient le corps, mais ne tuaient pas. Il y a des choses dingues.
Ouais. Que les gagnants français, quoi. C'est le meilleur du monde, de la planète.
Oui, ou Maurice Barrès, ô mort que vous êtes vivant. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Tout peut arriver. Hein.
Oui, c'est ça. Si on en revenait à Pouget,
oui, on revient
à la Confédération Générale du Travail.
On n'en est pas si loin que ça. Hein.
Ouais.
Donc il écrit cet ouvrage pour diffuser, j'imagine, très largement dans les syndicats. C'est pas simplement
c'est pour
faire
diffuser dans les syndicats, c'est aussi la conséquence de
l'ouvrage.
Eh bien, la Confédération Générale du Travail.
Voilà. Non, mais comme on a passé du roman avant, faut pas qu'on mélange les deux quand même.
Bravo, ça, on sent le grand professionnel.
Oh là. Donc, on parle de cet ouvrage, la Confédération Générale du Travail, qui est donc un ouvrage didactique, d'une certaine manière, pédagogique, pour que ceux qui sont adhérents à la CGT, mais qui n'ont pas bien compris forcément son fonctionnement, pas forcément bien compris ses finalités, pas bien forcément compris les outils qu'elle peut mobiliser, comme le sabotage, le boycottage ou le label, c'est un ouvrage quand même qui explique bien tout ça, en termes simples, accessibles, et qui nous amène à dire, ou surtout toi, que cet ouvrage est très contemporain d'une certaine manière, et qu'on ferait bien de s'y replonger.
Très contemporain aussi, parce que c'est donc 2 ans après la charte d'Amiens. Donc il ne faut pas oublier qu'à Amiens, il y avait eu la motion Grifful, et puis il y avait la motion Renard, qui disait qu'on était pour le lien de suggestion du syndicat au parti. Il y a eu les deux qui ont été présentés, et donc la motion Renard s'est trouvée minoritaire, sinon je ne sais pas ce qui serait arrivé. Hein. Et donc Jaurès, très tranquillement, reconnaît dans l'humanité que bon bah c'est la motion Griffut qui l'a emportée, donc la CGT va rester autonome, et on ne va pas chercher... C'est une vieille idée, hein. C'est une très très vieille idée, puisqu'une partie des fédérations, avant même que la CGT ne soit constituée, était pour le lien avec le Parti ouvrier de Jules Guesde, par exemple.
Pof, ouais.
Donc c'est un vrai problème, hein. Mais c'est un vrai problème aujourd'hui aussi. Mmh. Alors évidemment, il ne se pose pas tout à fait, vu l'état de décomposition des partis de gauche, comme il a pu se poser avant, mais dans les années 80, il y a eu une tentative de constitution d'un groupe qui aurait réuni la CFDT, Force ouvrière et l'UNSA, qui aurait constitué une espèce de pôle corporatiste qui, à chaque fois qu'il y aurait eu un gouvernement socialiste, aurait accompagné tout et son contraire. Donc, on voit bien que la ligne de partage de Griffut à partir de la charte d'Amiens, c'est tout le temps actuel.
Oui, mais je crois que la courroie de transmission l'a très largement vécu dans la CGT des années 30 aux années 70-80, quoi.
CGT
communiste faisait la loi, quoi.
Bah quand c'était la CGT, c'était ça. C'est d'ailleurs ce que les anarchistes de Pierre Ménard n'avaient pas compris. Au départ, ils croyaient...
Ils sont pas bons.
Non, mais ils croyaient que ça allait marcher, quoi. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils étaient à 50-50 avec les communistes. Mais eux, ils sont forts pour noyauter l'appareil, quoi. Donc au bout de 5 ans, ils avaient viré Ménard et son groupe. Ils ont quitté la CGTU avec des forces bien plus faibles que quand ils étaient arrivés. Et puis il y avait le groupe de la Révolution Permanente. Et c'est pareil, quoi. Enfin, eux, ils étaient moins puissants. Mais ils ont été obligés de prendre la fuite parce que, au bout d'un certain temps, tu avais 99% de staliniens.
Mais c'était du phagocytage, c'est tout.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça avait conduit à un échec. La CGTU ne fonctionnait pas du tout. Mmh. C'est pour ça qu'ils avaient fini par se réconcilier, à rentrer à nouveau dans la CGT. Et du coup, du jour au lendemain, ils s'étaient mis à adopter la charte d'Amiens, mais du bout des lèvres, il ne faut quand même pas rêver. Dès qu'ils ont repris le pouvoir, c'est-à-dire en 1945, parce que je rappelle que les accords du Pérou de 1943, normalement, à la fin de la guerre, on devait avoir 30-35% communistes et le reste confédérés. Et quand le CCN de mars 1945 se déroule, c'est 80% communistes.
Ouais.
Donc, c'est mort, quoi. C'est pas la peine d'insister. Ils comprennent qu'il va leur arriver la même chose qu'aux anarchistes de Pierre Bénard, quoi. Donc, donc ils vont fonder la CGTFO, parce que sinon, en 5 ans, ils vont passer de 20% à 2%. Hein. Donc, on connaît la chanson du parti qui tient en main une organisation syndicale. L'organisation syndicale ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Première possibilité. Deuxième possibilité, elle ne peut pas fonctionner non plus dans le cadre du corporatisme chrétien qui est déjà fondé hein, à l'époque où Bouget écrit. Puisque le premier syndicat chrétien, le syndicat des employés du commerce et de l'industrie, est fondé en 1887 par les frères des écoles chrétiennes.
Oui, c'est assez tôt.
Oui, c'est assez tôt. Ouais. Parce que si tu veux, il y avait eu la loi de 1884 et donc il y a une chambre syndicale qui s'était constituée confédérés, laïcs, tout ce que tu veux, quoi. Et Exupéry Hamas, qui était le patron des frères des écoles chrétiennes, s'est dit, oh là là, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on s'implante. Et donc, ils avaient un institut Benoît Labre qui formait des jeunes laïcs,
pas religieux. Et donc, ils en avaient formé deux, en particulier un gars qui s'appelle Gaston Tessier.
Et qu'on retrouvera plus tard.
Qu'on va retrouver pendant 50 ans. Il va se retrouver à la tête de ce syndicat qui, au départ, est un syndicat exclusivement masculin. Après, ils vont fonctionner tout de suite contre la CGT. Ils vont être les alliés du patron contre la CGT. Et puis un jour, en 1919, Tessier va fonder la Confédération française du travail chrétien avec l'encyclique du pape Léon XIII dans ses statuts.
Rerum Novarum.
Rerum Novarum, qui dit qu'il faut que l'injustice ne nuise pas à la concorde. Et c'est pour ça que la CFTC va refuser d'être membre du Front populaire, parce que le Front populaire, pour eux, c'est la lutte des classes. Eux, oui. Ils sont contre. Ça n'existe pas, la lutte des classes.
Et là, il n'y a pas de classe.
La CFTC.
Dans la religion, il n'y a pas de
capital. Ils sont pour l'association Capital-Travail.
Oui, ouais, c'est sûr.
La tradition de Sangnier et tout ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Et donc le résultat, c'est que la CFDT, aujourd'hui, c'est ça. Ça n'a pas varié. C'est pas la peine de faire semblant de croire que ça va changer. Et donc on est confronté à deux possibilités. Ou bien le syndicat est à la botte d'un parti, ou bien tu plonges dans le corporatisme. Et dans son bouquin, Pouget, il est contre les deux. Hein.
Ouais. Dès la première page de la Confédération Générale du Travail, dont le premier chapitre s'appelle l'organisation, il dit très clairement, à chaque degré, l'autonomie de l'organisme est complet, la fédération et les unions sont autonomes dans la confédération, et la confédération est autonome par rapport au parti. Au...
Oui, donc voilà. il s'est positionné dès le début.
À la fois c'est l'autonomie et c'est le fédéralisme. Donc on voit bien là que Pouget est un libertaire.
Et on voit bien là l'actualité, parce que depuis la loi de 2008, il y a une sorte de pompe à fric qui s'est mise à fonctionner, et qui est un peu entre les mains des responsables des confédérations. Donc ils peuvent tenir en main l'opposition éventuelle en faisant un chantage au fric.
Oui, l'opposition interne.
L'opposition interne.
Donc, est-ce qu'ils font FO couramment?
C'est ce qui se passait forcément à la CFDT depuis toujours, et sans se fatiguer. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer à FO. Ouais. Ça explique le fait que les résolutions générales de FO, désormais, sont votées par le Congrès. Et puis, une fois que c'est fait, on signe n'importe quoi. Le Ségur de la Santé, le texte sur le télétravail qui intègre la notion de charte de l'employeur. Un terme qu'on n'avait jamais vu depuis,
et depuis 40,
une période problématique. Ouais. FO a signé ça, mais sans aucun mandat. Si ce n'est qu'une fois que tu es décollé du réel et du mandat, tu signes n'importe quoi pour la sauvegarde de ta bureaucratie, en quelque sorte.
Et puis tu fermes toute possibilité au local de fonctionner, puisque tu enlèves le fric, de toute façon.
Mais c'est ça la question principale.
On l'avait vu avec la CFDT dans les années 70. Avant, c'était les syndicats qui ramassaient l'argent et qui envoyaient une partie de l'argent à la Confédération.
Oui.
Au bout d'un moment, c'est la Confédération qui récupérait tout et qui redistribuait
en fonction de critères.
Quand il y avait des UD qui étaient un petit peu trop anarcho-syndicalistes, un peu trop... qui avaient la bougeotte, il y avait des problèmes de ce type-là. Sachant que le syndicalisme aujourd'hui vit des subsides de l'État.
Ah ben,
c'est pas des cotisations.
C'est une question que j'évoque dans l'introduction et dont parle Pouget. C'est un problème de fond. C'est-à-dire que si tu veux du corporatisme, eh bien, fais-toi financer d'abord par l'État plutôt que par les cotisations. On en est là. Et on en est là d'autant plus que, du coup, ces bureaucraties syndicales sont pour un syndicalisme d'adhérents et pas de militants. Militants ne les intéressent pas. Ce qui fait que les centres de formation te forment à rien du tout. Hein, donc, moi, je suis pas trop mal placé pour en parler, puisque j'ai écrit une dizaine de bouquins d'histoire du syndicalisme, en grande partie parce que j'étais parrainé par Blondel, hein, autant le dire, parce que dès que Blondel n'a plus été là, ils me sont tombés dessus. Hein, donc, parce qu'ils en veulent pas. Ils veulent pas qu'on forme des militants. J'étais assistant confédéral pendant 6 mois. Dès que j'ai dit que je voulais former les assistants confédéraux parce qu'ils connaissaient rien à l'histoire du syndicalisme, la semaine d'après, j'étais viré. Hein. Donc, c'est sans ambiguïté. C'est un enjeu, la formation militante. Et évidemment que le livre de Pouget, c'est de la formation militante à l'état pur. C'était fait pour que les militantes jeunes syndicats comprennent où ils sont, comment ça marche et quelles sont leurs armes. C'est l'intérêt de son bouquin.
Ouais. Radio Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales associées au
Philanthropie l'ouvrier charpentier.
Thank you. weil wir arbeitslose Szenen mir nicht gehört hat, aus dem Land. In Fabrik, im Hammerglanz, liegen Kehl im Kalt vergessen. Es nimmt der Schauer, sich scheint fressen, gehen wir rum in Gas. Wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier arbeitslose Szenen mir, ohne Begett, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich wir im Wein, gießen wir in sicher rein, gießen wir in sicher rein. Zwei, drei, vier arbeitslose Szenen mir, jahrelang die Arbeit schwer und geschafft als mehr und mehr heißer Schlösser. Städten, Länder, fahre Heifele, Verschwender, unser Leute, fahre es was, hungerneut und arbeitslos, hungerneut und arbeitslos. Wir rote Säue marschieren wir, arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von Land der Welten nahe, wo es leben menschenfreie, arbeitslose Steinschumant, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land.
Radio Libertaire, c'était la marche des chômeurs en yiddish, Arbeit los.
Voilà, et donc toujours en compagnie de Gérard Da Silva,
Radio Libertaire,
autour d'un personnage tout à fait éminent, Émile Pouget,
89.4,
et autour une petite brochure un peu pédagogique, la Confédération Générale du Travail, précédée du discours de Blondel pour les 100 ans de la CGT.
Alors quand tu dis pédagogique un peu, non.
Pédagogique oui, beaucoup.
Elle est très claire.
Bah, il suffit de regarder le sommaire.
On te prend l'organisation, les syndicats, les fédérations, l'organisme confédéral.
Donc c'est comment ça fonctionne,
voilà.
Grosso modo.
La tactique, l'action directe, les grèves, le boycottage et le label, le sabotage, la lutte contre l'État, la grève générale,
donc les moyens. Voilà. Sachant que ce qui est intéressant quand même dans cette partie tactique, c'est la lutte contre l'État. Où là on retrouve à nouveau un Pouget anarchiste.
Bien sûr.
Parce que ça serait un léniniste de quelque poil que ce soit, il n'y aurait pas la lutte contre l'État, il y aurait la lutte pour la prise du pouvoir d'État.
Et le dernier chapitre, les résultats, les grèves, les conditions de travail, le 1er mai.
Et les 8 heures.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très clair, très facile à lire, et c'est du matériel de propagande, ça, l'État pur.
Oui, je ne suis pas sûr qu'on ait fait mieux depuis. Parce qu'on a écrit des bouquins d'histoire de la CGT. Mmh. Moi, le premier, j'en ai écrit un qui allait de 1984 à 2009. C'est pas du tout la même chose. Mmh. On apprend des tas de trucs, les comptes rendus de congrès, tout ce que tu veux. Là, c'est un outil pour les militants.
Oui, mais il fait pas un boulot d'historien, lui.
Pas du
il
tout.
Il fait un boulot de propagandiste.
Il n'en a pas besoin, puisqu'en plus, ça vient juste d'être créé, donc c'est à chaud, quoi.
Mmh. Oui, et puis il a toujours fait un boulot de propagandiste, parce que même quand il fait ses journaux... Tout ça, c'est de la propagande. Lui, ouais, il est là-dessus.
C'est vraiment ça, son idée. Et là, c'est pour ça qu'il est dans la tradition révolutionnaire, des journaux révolutionnaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il le sait, il l'assume.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de ça? Qu'est-ce qui nous rappelle? Bon, moi, je reviendrai bien un petit peu sur la tactique, là, parce qu'on a peut-être oublié que, bon, alors, le fonctionnement, on pourrait y revenir, mais il définit l'action directe, par exemple.
Et sinon, le fonctionnement est intéressant, parce qu'en fin de compte, il part de l'unité qui va se fédérer, qui va se confédérer. Il ne parle pas de la confédération qui va structurer ce qui est en gros en dessous.
Oui, donc c'est une organisation qui se construit de la base vers le sommet. Ça. Et le sommet n'a pas pouvoir sur la base, mais applique en principe ce que les bases ont décidé.
Pour être franc, c'est la raison principale pour laquelle j'ai eu l'idée de rééditer ce bouquin. C'est pour cette idée-là, justement, puisque là, nous vivons l'inverse. la Confédération au tout pouvoir, tu n'es pas d'accord avec moi, je ferme le robinet, quoi.
Ouais. Mais donc, là, c'est oui, parce qu'actuellement, c'est de la pyramide. Là, ils proposent la pyramide inversée, quoi.
Absolument. Mais ils proposent aussi ce qui existait réellement à l'époque. Hein. Maintenant, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque qu'une bureaucratie se mette en place où que ce soit. Il ne faut pas se raconter d'histoire, mais ce n'est pas du tout le cas lorsqu'il écrit son livre. Mais la déstabilisation de Grifful, à l'époque, était faite pour essayer de renverser la CGT vers un mode de fonctionnement réformiste, corporatiste. Le risque a toujours existé. En 1919, il y a même eu une interdiction de la CGT qui était censée être supprimée. Et puis finalement, vu le mouvement de grève, le gouvernement a reculé. Donc il y a toujours eu la tentation soit d'acheter les syndicalistes, enfin les responsables, soit d'essayer de les intégrer dans un cadre corporatiste.
Et voilà. C'est d'ailleurs le danger de l'organisation pyramidale. C'est-à-dire du haut vers le bas, très clairement. C'est-à-dire c'est la confédération qui décide des fédérations, les fédérations des individus. Parce que là, il suffit d'acheter les au niveau confédéral. Quant à la pyramide inversée, c'est plus difficile parce que tu vas prendre quoi, chaque fédéré.
Et puis le pire, c'est qu'une minorité peut prendre le pouvoir, noyauter l'appareil et devenir majoritaire dans l'appareil, quoique minoritaire.
Sur les idées.
Ouais. C'est un peu ce que les communistes, les staliniens avaient réussi à faire, avec un certain brio, parce que Frachon, c'était dans ce genre de domaine, il était assez bon, et voilà. C'est pour ça que...
Sachant qu'il y a, là-dessus, ça veut dire qu'il y a des permanents, ça veut dire qu'il y a des militants révolutionnaires professionnels à la Lénine qui détiennent la vérité et qui vont l'imposer coûte que coûte.
Pas seulement.
Et l'information.
Tu as des militants qui vont avoir des comptes à rendre à leur hiérarchie et pas aux militants. C'est ça l'affaire. C'est vrai que on a eu un cas un peu extraordinaire lors du dernier congrès fédéral de FO, où il y avait deux candidats, et puis il y a un gars qui monte à la tribune et qui demande à un des deux de retirer sa candidature. Vu que c'était le représentant du nom départemental du Maine-et-Loire, tu te disais, mais en vertu de quel mandat peut-il demander au secrétaire de la Fédération des fonctionnaires de retirer sa candidature ? Alors, un mandat syndical, c'est impossible, ou alors c'est un mandat politique. Mais si c'est un mandat politique, c'est contraire à la charte d'Amiens, qui est dans les statuts de force ouvrière. Eh bien, aussi dingue que ça puisse paraître, le mec a retiré sa candidature, et c'est comme ça que tu te retrouves avec un candidat minoritaire, mais qui est seul, et comme il est seul, ben, il est élu dans un fauteuil, forcément.
Oui,
on est en train de vivre ça. C'est d'ailleurs la tendance.
S'il a retiré sa candidature, ça veut dire que son chef du parti.
Bah, c'est ça ce que ça veut dire.
Est intervenu.
Est intervenu, et comme il était le chef du parti, il avait le.
Et le mec
il prenait le pas sur le syndicat.
Et le mec n'a pas eu le cran de dire j'ai reçu le mandat de me présenter, je suis dans une organisation syndicale, là tu ne respectes pas la charte d'Amiens, donc excuse-moi, mais en tant que représentant du lieu du Maine-et-Loire, tu me fous la paix, quoi.
Oui. Je pense que ces trotskistes-là n'ont jamais respecté la charte d'Amiens.
C'est facile de répondre. Non, mais ce que je dis là, c'était facile de le répondre. Voilà. Donc on en est là, et c'est vrai que ça peut tuer une organisation, si on joue à ça.
Voilà. Et Pouget l'expliquait. Et Pouget faisait les propositions, justement, pour pas qu'il y ait ce genre de choses.
C'est-à-dire que cette idée de la base au sommet, voilà, avec l'autonomie, ça a toujours été fait pour éviter ça. Parce qu'au moment où il l'écrit, lui, il le dit pas. Mais le syndicat chrétien dont je parle avec Zirnheld et Tessier, ils étaient déjà dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on avait mis en place ce qu'on appelait le Conseil supérieur du travail. Bah, ils étaient main dans la main, le syndicat chrétien, avec les patrons et le gouvernement contre les représentants de la CGT. Donc même s'il ne le dit pas, c'est quelque chose qu'il connaît. Le corporatisme chrétien, à quoi ça sert, il le connaissait depuis 1887, mine de rien. Donc voilà, c'est un vrai problème, et c'est pour ça que c'est toujours actuel. Il y a toujours la tentation, en plus, il y a l'Europe, et beaucoup disent, bon, peut-être que c'est vrai qu'on s'éloigne complètement du mandat syndical et compagnie, mais ce qui compte, c'est d'avoir un strapontin dans le cadre de l'Union européenne. Tu vois ? les strapontins syndicaux de permanents, là, où tu vas aller de congrès en congrès.
Oui, c'est une vie autonome, quoi. C'est
oui, une vie autonome qui n'a, où tu as tout frais payé, avec l'hôtel, le taxi, enfin, tu as une vie de ministre, en quelque sorte.
Et, ministre syndical.
Ministre syndical, donc tu signes n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oui. D'où l'idée de signer le Ségur de la Santé, alors que le Ségur de la Santé prévoyait de continuer à fermer des lits pendant la pandémie. Tu crois qu'ils ont la dignité de dire, bon, bah, on commence d'abord à supprimer la gestion à flux tendu de la santé, puis on verra après ? Non.
On continue.
On continue.
Et on essaie
alors
de faire
après,
un
le gouvernement pouvait dire la bouche au cœur, bah, j'ai le droit de continuer à fermer des lits, puisqu'il y a deux syndicats qui ont signé et qui ne sont pas contre. Oui. Mais la question, c'est où ont-ils trouvé le mandat donné par des militants comme quoi c'était bien de fermer des lits à l'hôpital ? Nulle part, puisque c'est condamné par tout le monde. Mais c'est là qu'on voit la coupure complète de l'effet pyramidal et à quel point la démonstration que fait Pouget du fonctionnement du syndicalisme est la bonne. Si on veut éviter cette bureaucratie et cette mort syndicale par la bureaucratie.
Oui, oui. Sachant que cette bureaucratie que tu relis au phénomène européen existait déjà avec le BIT quand même. Hein. Il y a pas mal de gens qui, au Bureau international du travail, étaient des quasi-ministres.
Bah, c'était aussi les plans qu'avait mis en place De Gaulle dans les années 60. Hein. Mais il faut être clair, les gens le dénonçaient déjà à l'époque. Alors, il y a toujours les spécialistes qui maîtrisent parfaitement leur dossier et qui disent « Non, c'est un problème technique, je maîtrise bien mes dossiers, je vais siéger au BIT, ou je vais participer au deuxième plan, au troisième plan, au quatrième plan. » Mais le fait est que tu n'es plus dans la logique syndicale. C'est que tu es dans un autre monde. Alors, tu es peut-être très compétent. Hein. Moi, j'ai rencontré des syndicalistes qui maîtrisaient leur dossier à 100%.
Oui, mais ça devient un syndicalisme un peu à l'américaine, comme des c'est simplement des experts
comme des techniciens.
Qui font...
Comme des techniciens. Et le problème, c'est que si tu perds de vue que tu as un mandat, et que ce mandat, c'est de défendre les intérêts des travailleurs, bah, tant pis si tu es un super technicien. Quoi. C'est pas ça qui t'est demandé.
Ouais. Si on venait à l'action directe, parce que c'est l'un des outils que Pouget préconise, alors qu'est-ce qu'on entend par action directe au temps de Pouget ?
Bah, au temps de Pouget, la CGT pouvait conduire des actions. Enfin, c'est un peu compliqué parce que lui, justement, il veut que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Hein.
Il donne pas des ordres. Il est anarchiste de fond. Il donne des idées.
Voilà,
il donne des... participer.
Voilà.
Et il dit que les gens qui ont envie de le faire, ils le font.
Tu peux le faire. Tu peux saboter si tu veux saboter dans telle ou telle condition. C'est une des possibilités qui t'est donnée. Donc tu peux faire de l'action directe dans ce contexte-là.
Qui veut dire action directe ?
Ben, ça veut dire que tu peux intervenir dans l'entreprise et que tu peux arrêter l'outil de travail. Enfin, il y a diverses possibilités.
Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne décide à ta place.
Il n'y a pas d'intermédiaire.
C'est-à-dire qu'on prend nos affaires en main.
Voilà.
Et effectivement, on choisit le meilleur outil pour obtenir soit des revendications immédiates, soit pour préparer la grève générale.
D'une certaine façon, les occupations d'usines ressembleront à ça. À de l'action directe où tu prends possession de l'outil de travail.
Sans intermédiaire, quoi.
Sans aucun intermédiaire. Et d'ailleurs, c'est une des hantises. À chaque fois qu'il y a un risque d'occupation, on envoie désormais des forces de police. Là, j'étais présent à une manif plutôt pour la cause palestinienne il y a quelques jours. Et il y avait 100 manifestants et 200 flics.
Oh, mais de toute façon, c'est le rapport actuellement qu'ils veulent. Hein.
Ouais.
C'est le rapport de violence écrasante.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on en est là. Effectivement, on voit, on a vu la violence de la répression antisyndicale avec des armes qui sont condamnées dans pratiquement tous les pays.
Oui, mais depuis la loi El Khomri, hein,
oui,
ça a commencé sous le PS quand même.
C'est le PS. Ouais. Il ne faut pas oublier que Manuel Valls, il y a eu un jour où il avait interdit le droit de manifester. Moi, j'ai conservé le Monde qui titrait... le droit de manifester n'existait plus. Alors après, ils se sont dit, bon Dieu, ça la fout mal.
Ce qui est étonnant, c'est que bon, dans les propositions d'action directe, il y a un rapport qui est différent à la violence qu'à la violence policière, c'est très clair. Parce que dans l'action directe qui est proposée, ils ne proposent pas ce qui s'est fait sur la propagande par le fait avant, mais des actions sur le matériel, sur les occupations. Ce n'est pas des agressions sur des individus qu'ils proposent. c'est vraiment du sabotage de machines, de choses dans ce genre-là. C'est un rapport qui est particulier par rapport à la propagande par le fait dont on avait entendu parler avant.
Alors c'est soit du sabotage, soit du label, soit de l'appropriation de l'outil de travail.
Alors explique ce que c'est que le label quand même, parce qu'on en a parlé.
Oui, d'accord. Alors le label, c'était l'idée selon laquelle il fallait valoriser ce qui était produit par des ouvriers syndiqués. Donc, effectivement, je racontais que j'avais rencontré, il y a plus de 50 ans, René Lefeuvre, dont les publications Spartacus étaient toujours avec écrit, imprimées par des ouvriers syndiqués, mais la plupart des éditeurs s'en foutaient pas mal du label. Donc, c'est une bonne idée qui prouve le pragmatisme de Pouget, et qu'on a tort de dire que c'est de l'action violente pour la violence, comme certains ont voulu le faire croire pour disqualifier son propos. Non, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique, et il faut être tout à fait clair, l'occupation d'usine, c'est pas plus violent que lorsque les salariés d'une boîte arrivent et que l'usine est fermée, on a mis tout sous cloche et on est parti.
Oui.
Non, et d'ailleurs, je me permets de dire que la loi Macron de 2015, quand il est ministre, a supprimé toutes les peines de prison qui étaient prévues pour les patrons. Ce qui fait que même le patron le plus pourri, qui a touché de l'argent public, qui dès qu'il n'y a plus d'argent public, il met la clé sous la porte, il laisse les salariés en plan, il risque peut-être une amende. Pas plus que ça, mais la prison, c'est désormais pour le peuple. Hein, le code pénal a été réécrit.
On sait bien qu'il y a une violence patronale terrible, le lock-out par exemple.
Hein, oui,
il ferme tout.
Oui. Alors cette violence-là, il ne faut jamais en parler. La violence des licenciements, la violence des procès faits aux syndicalistes. Ça, c'est tout le temps maintenant. Tu as un budget. Et alors, ça, personne n'en parle. Mais alors, dès que tu dis sabotage ou action directe, ça y est, tu as l'impression que
c'est la révolution.
Que c'est à feu et à sang, que ça veut dire.
Ça.
Alors qu'en fait, non. C'est un rapport de force par rapport à l'outil de travail où les travailleurs s'approprient leur propre outil, en quelque sorte. Ça veut dire ça.
Ouais.
Alors, évidemment, ils ne sont pas contents parce que la propriété privée est sacro-sainte. Mais jusqu'à quel point, en vérité
Sachant que sur le sabotage, il l'illustre bien, non pas dans cet ouvrage-là, mais dans sa petite brochure qui s'appelle Le Sabotage, où il montre que ça vient d'ouvriers britanniques qui avaient une mauvaise paye, et donc ils vont réduire la taille de leur pelle, parce qu'ils ont une réduction de salaire, donc ils réduisent la taille des pelles, c'est des gars du bâtiment, et donc ils sabotent d'une certaine manière la production, quoi, en la limitant à la hauteur des salaires qu'ils reçoivent. Quoi.
Oui. Et... Bon, c'est pour ça que c'est très pragmatique, et qu'il faudrait que ce soit lu et relu, parce qu'on en a besoin actuellement. Si on ne veut pas que continue la dérive, et ce qui s'est passé l'année dernière, parce que la signature du texte sur le partage de la valeur, c'est quand même une trahison déshonorante. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait en douce. Ils n'ont pas fait de la pub, parce qu'il ne fallait pas dire qu'il y avait des directions syndicales qui signent dans le dos du mouvement social un texte qui trahit tout le monde. Donc ils étaient bien contents que ce soit signé, mais ils ne se sont surtout pas vendus. Vantés.
Si peut-être.
Oui,
Alors, et qu'est-ce qu'il entend, lui, par à cette époque-là, la lutte contre l'État? On vient de parler vraiment de la lutte purement syndicale, entreprise.
Il ne faut pas oublier que la lutte contre l'État, c'est quelque chose de très très concret. Parce que jusqu'à là, l'État n'hésitait jamais à envoyer l'armée et la troupe à cheval contre les mouvements de grève, On n'a pas idée de la violence. Toutes les grèves du 19e siècle dans les mines, on envoie l'armée à cheval. Le Clémenceau, c'est pour ça qu'on l'avait appelé le premier flic de France, il a envoyé la troupe à cheval. Puis s'il y avait des morts, il y avait des morts.
Et particulièrement à Villeneuve-Saint-Georges, avec les gravières.
Villeneuve-Saint-Georges, Fourmis, donc il y a eu plusieurs cas très graves. Et donc la première lutte contre l'État, c'était directe, parce que tu avais les forces de répression qui t'interdisait d'exister et que tu étais dans un mécanisme d'autodéfense. Déjà, il y avait ça. Et puis alors après, bon, c'est quand même l'État bourgeois qui est au service d'une classe précise contre l'écrasante majorité du monde du travail. C'est ça ce que ça veut dire aussi. Donc là aussi, c'est pas la peine de faire semblant d'être scandalisé. C'est quelque chose de parfaitement pragmatique et qui, à l'époque, se comprend tout à fait. D'ailleurs, un auteur réformiste qui s'appelle Thomas Piketty a publié un bouquin il y a une dizaine d'années où il démontrait que de privatisation en privatisation, on était en train de revenir au système d'avant la guerre de 14 en termes de la minorité qui est tellement riche par rapport l'écrasante majorité de la population. Qu'on était arrivé quasiment au même niveau d'inégalité et de privilèges qu'avant 1910, c'est-à-dire à l'époque de Pouget. Oui. Donc en réalité, on est revenu avec nos 100 milliards de dividendes versés aux rentiers, et dans le même temps, on n'arrête pas de casser l'assurance chômage, parce que le fait d'être au chômage serait un péché, en quelque sorte. Donc, ne rien foutre de sa vie et toucher les rentes, alors ça pose aucun problème.
Oui. Sachant que Pouget a bien compris que l'État, c'est un outil au service du capital qui protège les riches contre les pauvres.
C'est ce que je suis en train de dire, oui. Alors, c'est surtout ça ce que ça veut dire. Mmh. En l'occurrence, mais à l'époque, ça prend toutes les formes, y compris une forme de répression physique, hein, puisqu'ils n'hésitaient pas et que ça ne les gênait pas qu'il y ait des morts qui restent sur le carreau. Hein. Donc je crois qu'on n'a pas tout à fait idée de la violence des relations sociales de l'époque, mais on pourrait y revenir.
Mmh. Mais là, tu parles vraiment d'autodéfense, en gros. Et tout. Et qu'est-ce qu'il propose, lui, comme attaque ? Est-ce qu'il est toujours dans l'autodéfense, c'est-à-dire, en effet, les forces de l'ordre, de l'État, qui attaqueraient ? Mais est-ce que lui, il voit, parce que bon, il y en a qui ont, à une époque, posé des bombes, des choses dans ce genre-là, est-ce que lui, il voit une forme d'attaque sur l'État, et comment il peut la matérialiser ?
Non, moi, j'ai rien vu du type, on est là pour poser des bombes. Non, ça, c'est une autre...
Oui, oui.
Notre tradition, en quelque sorte. Hein. Donc, elle a existé. Lui, il est plutôt dans l'idée de l'appropriation de l'outil du travail.
D'accord.
C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et c'est normal, puisque c'est un syndicaliste.
Oui. Mais il dit, quelque part, je crois, que c'est effectivement toute la richesse est produite par les ouvriers, les ouvrières.
Voilà.
Et donc, puisqu'on a la richesse, c'est à nous de la répartir sans forcément rémunérer le capital, quoi.
Ce qui est parfaitement actuel.
Absolument, ouais, absolument logique en plus. Ouais.
Non, c'est tout à fait actuel. Hein, c'est-à-dire que quand tu vois que le budget de l'armée actuellement, c'est 413 milliards, et qu'on vient te chercher à faire des économies de 10 milliards en faisant les poches...
des chômeurs, des retraités...
De l'écologie, de la comédie française ou n'importe quoi, bon, ben, t'as qu'à diminuer ton budget militaire et on s'en portera beaucoup mieux.
Hein. Quelques missiles en moins, on n'en parle plus.
Dont on n'a rien à fiche, je parle sur le marché, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et c'est très
bien. Et autodestructible.
Et
c'est ça qui est bien.
C'est bon que pour les marchands d'armes.
Hein. Ah, bah oui, ça se détruit très vite.
C'est pas la peine de nous raconter d'histoire, ça n'est bon que pour les marchands d'armes.
Oui, sachant que je crois qu'un avion d'assaut, c'est 130 millions d'euros.
Oui, oui.
Un avion.
Oui, oui.
Et un avion, ça tombe.
Ça tombe, puis ça devient vite obsolète. Nécessairement, donc il faut les
d'ailleurs,
renouveler.
C'était une revendication de la CGT que les industries d'armement appartiennent à l'État pour qu'on n'enrichisse pas les marchands d'armes, etc. etc. Ouais. Bon, on en est loin.
Ouais.
On en est loin.
Même la possession des fabrications d'armes par l'État et pour l'État, c'est déjà une vraie question que la CGT aurait dû se poser.
C'est déjà
qu'est-ce
une vraie
que
question.
Les ouvriers CGT
mais après la guerre de 14, c'était tellement terrible ce qui s'était passé. Au bénéfice de quelques marchands d'armes privés.
Oui, Krupp et Schneider.
Oui,
en particulier, quoi.
Basile Zaharoff et autres spécimens. Et c'est à un point tel qu'un de mes copains avait voulu faire une thèse sur ça il y a quelques années. Secret défense.
Ah ouais,
on ne peut toujours pas écrire sur ça.
Ah ouais.
Parce qu'on risquerait de voir la collusion entre les marchands d'armes, les hommes politiques, les journaux. Et donc, secret défense.
Ah oui.
Moi, je me suis opposé aux archives nationales, secret défense, pour des clopinettes. Hein, ouais. Donc, c'est une forme de censure pour t'interdire d'écrire un pan d'histoire. Je parlais du régime de Vichy. Il n'y a rien sur la Confédération Générale du Patronat Français aux archives nationales pour mettre en cause le patronat.
Qui a collaboré largement.
Qui a collaboré à 100% avec le nazisme, un point tel qui ne fait pas partie du Conseil National de la Résistance, et qu'il met un an et demi avant de se reconstituer à la Libération, parce qu'ils sont collabos comme des fous. Mmh. Ils n'ont personne à proposer de fréquentable et de présentable.
C'était le problème après la guerre sur les syndicats patronaux, on ne trouvait personne.
On ne trouvait personne, puisque Gignoux, le patron des patrons, quelquefois dans certaines réunions du régime, il remplaçait Pétain. Ils étaient là jusqu'au cou. Donc, d'où la loi de 2008, d'ailleurs, où le MEDEF a demandé que la page honteuse du patronat français soit arrachée, et les deux bureaucrates de service, Thibault de la CGT et Chéret, l'ont fait. Ils ont rendu service au patronat en échange de rien.
Ouf.
En échange de rien, parce que pour les travailleurs, je veux dire.
D'accord.
En échange de rien pour les travailleurs.
On se met un petit point de musique ?
Ouais, musique, please.
Une petite musique.
Bon. D'accord.
J'attends une belle enfant. J'appelle, j'appelle, j'en parle aux passants. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'appelle, j'appelle, j'en parle aux passants. Que suis-je sans elle, un agonisant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Que suis-je sans elle, un agonisant. Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Transi quand il gèle, sans gîte souvent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Transi quand il gèle, sans gîte souvent. J'ai dans la cervelle des mots et du vent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'ai dans la cervelle des mots et du vent. Bétaillon m'attelle, esclavon me vend. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Bétail, on m'attelle, esclave, on me vend. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. J'en suis méchant. Ah, je l'attends, attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, viens ton appel, guérir ton amant. Ah, je l'attends, attendrai-je encore longtemps.
Radio Libertaire, 89.4, c'était « Quand reviendra-t-elle » de Mouloudji. Je repasse le micro au studio.
89.4,
la radio de la Fédération Anarchiste.
En compagnie de Gérard Da Silva.
Autour d'une brochure de Pouget sur la Confédération Générale du Travail et explicative, pragmatique de ce que c'est, ce que ça devrait être et des méthodes qu'on peut utiliser pour lutter.
Voilà. Sachant que Gérard a à la fois republié cette Confédération Générale du Travail de Pouget, mais a tenu à l'associer à un discours de Marc Blondel, qui n'était pas un grand révolutionnaire, sauf peut-être dans les principes, comme tu le disais, et qui était plutôt sur la ligne Jouot plutôt que sur la ligne Pouget. Mais néanmoins, Blondel s'est autorisé un certain nombre de rappels sur la fondation de la CGT 100 ans avant à Limoges.
Alors en fait, dans les années 80, Bergeron avait prévu son...
Bergeron, ancien secrétaire général.
Ancien secrétaire général pour 25 ans, avait prévu son successeur. Et le Parti Socialiste avait eu l'idée, dans ces années 80, où il était puissant, de créer une sorte de conglomérat syndical, CFDT, Force Ouvrière, UNSA.
Oui, ce que tu disais tout à l'heure.
Et donc, normalement, si ça avait été le dauphin de Bergeron, peut-être que ça aurait fonctionné, ce truc-là.
C'était qui, le dauphin ?
Pitous, c'est ça.
Pitous, ah oui, je me rappelle de ce nom, ouais.
Et donc, en fait, ils étaient deux, quoi, Pitous et Méré. Et donc, le résultat, c'est que, en fait, les gens ne voulaient pas avoir 25 ans de Bergeron plus 15 ans de Bergeron sous un autre nom, par exemple. Ça a permis à Blondel d'être élu. Et le résultat, c'est que Rocard devient Premier ministre. Si ça avait fonctionné, l'espèce de conglomérat, on était censé applaudir à la CSG, par exemple. Ça servait à ça. Et donc, évidemment, Blondel a organisé contre la CSG. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, une campagne de presse a commencé contre lui, et qu'il disait un mot pas très poli, parce qu'il faisait des blagues à deux balles, un peu comme Rabelais et autres, ça y est, c'est un drame national. Alors, s'il s'était couché, je pense qu'il aurait pu dire n'importe quoi. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on est en 95, il a l'idée qui surprend beaucoup de monde, puisque on raconte à tout le monde que la CGTFO est née en 47. Il a l'idée d'aller à Limoges en disant « Nous, le syndicalisme de la charte d'Amiens, c'est nous. » Mais il a fait autre chose. Avec le 29 janvier, il le dit dans son discours. Il a dit que, dans un meeting, qu'il fallait organiser la grève pour la défense de la Sécu, qu'il fallait une grève générale interprofessionnelle. Et au moment où il fait son discours, un millier de meetings ont été organisés dans toute la France. Donc c'est pas un truc spontané. Et le fait est que quelques semaines après, il y aura le mouvement de novembre-décembre 95 contre le plan Juppé, que d'ailleurs, nous, à l'époque, on appelait plan Juppé Nota. Ouais. Mais si il y avait eu le truc en question, peut-être que FO, avec quelqu'un d'autre, aurait été pour le plan Juppé. Donc c'est un truc un peu particulier. Le fait est que l'année d'après, Méré va se présenter contre Blondel, il va se prendre une gamelle, et ce faisant, il va partir à l'UNSA. Donc il va réaliser littéralement ce qui était programmé par les dirigeants du PS, et qui est vraiment le lien de suggestion du syndicat au parti politique. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, depuis la loi 2008 et la pompe à fric, dans une logique pyramidale, on est revenu au schéma de 89, et que depuis 2019, la direction de FO fait la même chose que celle de la CFDT, c'est-à-dire signe contre le mandat qui leur est donné, contre l'intérêt des travailleurs. Et je me suis dit, si l'on est ainsi, rétrospectivement, Blondel avait raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre les deux ensemble, également pour qu'on ne vienne pas dire que oui, bah, de 1908 à aujourd'hui, excuse-nous, mais le temps a passé, il faut être moderne, discours qu'on entend tout le temps, tu vois. Ouais. Donc là, ça nous fait aller de 1908 à 1995 jusqu'à aujourd'hui, en réalité, parce que les problèmes sont décidément toujours les mêmes. C'est-à-dire que au niveau de la relation entre les classes sociales et l'antagonisme entre classes sociales, il n'y a jamais rien de nouveau. C'est toujours pareil.
Sachant que si en 95 Juppé a reculé, c'est qu'on ne s'est pas amusé à faire un jour de grève générale toutes les semaines.
C'est ça.
Tout s'est arrêté.
Tout s'est arrêté.
Effectivement, ils ont compris que ça risquait de déborder, quoi.
Exactement. Voilà.
Et avec... aux dernières manifestations pour les retraites, un jour ici, un jour là, ça n'a pas fonctionné, quoi.
Oui, ça faut
tout arrêter, quoi.
Et puis en plus, évidemment que ça avait été lancé par FO, et en même temps, ça dépassait les forces de FO. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, là, ça commence à devenir vraiment dangereux. Alors que si jamais, plutôt que d'organiser préalablement, tu fais des meetings, où tu expliques aux gens qu'on va se lancer dans un mouvement de grève, tu te contentes de défiler d'un point A à un point B, comme on l'a fait l'année dernière, le gouvernement, en face, ils sont fous, parce que ça ne crée pas de rapport de force, tout simplement. Et c'est le côté intéressant du discours de Blondel, collé au bouquin de Pouget, c'est que c'est la même idée, c'est que ça se prépare. Si tu crées un rapport de force, ça se prépare. Éventuellement, tu l'as préparé, ça te dépasse.
Ça, c'est pas le plus grave.
C'est pas le plus grave, hein. Et quelquefois, ça démarre, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est la fameuse grève de 53, où des postiers faux de Bordeaux se mettent en grève, et une semaine après, tu as 2 millions de personnes, en plein mois d'août, qui ont cessé de travailler. Pourquoi ? On ne peut pas dire que c'est organisé par FO, quoi. Et ce n'est pas du tout organisé par la CGT, qui n'y comprend strictement rien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas poser de conditions ou bien on est 50% et on y va, parce qu'il y a plusieurs fois dans l'histoire où le mouvement social est parti comme ça.
On l'a vu en 68.
68, 36. 36.
Ouais. 36. Ouais, des explosions.
Oui, c'est ça. Ouais. Et évidemment, ils le savent, hein. C'est la raison pour laquelle, si on peut museler le mouvement, on va le museler, on va être gentil, on va être bien propre, on va manifester d'un point A, un point B, puis on va chez soi. Et puis on ne sait pas quelles revendications on pose. Alors du coup, on dit qu'on est contre. Mais ce qui compte, c'est lui, pourquoi ? Quel est ton programme ? Tu revendiques quoi ? Si tu dis je suis contre 64 ans, je ne sais pas trop quoi, bon, ben dis-moi pourquoi tu es. Et comment tu le finances? Et là, on verra. Et là, on verra qu'on est en train de défiler avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées et que c'est un faux rapport de force. Parce que quand même, en 95, bon, CGTFO, ça collait à peu près, quoi. Là, avec la CFDT, la CFTC et compagnie, on est sûr qu'on va droit dans le mur. Voilà. Donc, évidemment que Pouget, à aucun moment, il pense que ce serait intéressant de passer une alliance avec le syndicat chrétien de Tessier de l'époque. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Et nous, on joue à cette comédie comme si on ne connaissait pas l'histoire.
Mais on ne la connaît pas.
Bah, écoute, on l'a oublié.
Oui, non, mais
excuse-moi,
c'est
mais la CFDT, elle était pour la retraite par points, elle était pour la loi travail, elle était pour les ordonnances Macron, c'était il y a moins de 10 ans. Donc si les gens ont envie d'être amnésiques, c'est leur problème, on ne peut pas l'oublier.
Oui, mais il y a ça aussi, il y a de l'amnésie, quoi.
Ah non, mais c'est pas de l'amnésie. C'est à partir du moment où tu crées un faux rapport de force, bah, tu as intérêt d'être amnésique. Tu l'es volontairement. Tu ne peux pas rappeler à Laurent Berger, non mais toi tu as mené campagne contre nous, tu as signé avec Valls en 2016 contre le mouvement social, donc viens pas nous emmerder en nous disant que tu es plus ou moins d'accord avec nous et qu'on va défiler ensemble. Ce n'est pas possible. Par exemple, la CFDT, ils étaient pour la suppression des CHSCT. C'est récent, ça. Voilà. Alors maintenant, ils pleurent parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu catastrophique. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucun travail de casse voulu par le patronat et le gouvernement qui n'est soutenu. Donc, effectivement, de ce point de vue, il faut rester dans la ligne bouger. Tu crées un rapport de force, un vrai. Tu n'as peut-être pas une quantité gigantesque qui est avec toi, mais suffisante. Et avec un plan de revendication clair et des moyens, alors, quel qu'il soit, hein, action directe, sabotage, grève générale, tu peux y arriver. C'est la leçon de l'histoire. Et quelquefois, tu peux même être dépassé par le mouvement social. C'est ce qu'on se disait en 36, en 53, en 68, et un peu en 95, d'ailleurs. C'est allé très au-delà de ce que l'on pensait.
Oui, sachant que peut-être que nous verrons un prochain mouvement social, parce que à force de réprimer les travailleurs, de maltraiter les chômeurs, de dégrader les services publics, en particulier la santé et l'éducation, ça va bien finir par péter quand même.
Eh ben justement, c'est ce que je disais à propos de 53 ou même 36, c'est-à-dire ça démarre d'une ou deux entreprises, et puis après ça prend partout. D'ailleurs en 68... ça commence à Sud Aviation, personne ne pense.
Donc à Nantes,
que 3 jours après, avec Maurice Papon comme patron, personne ne pense que 3 jours après, quantité d'usines vont suivre. Et c'est pas les directions syndicales nationales qui l'ont demandé. Donc, si tu es prêt, dans le cadre décrit par Pouget dans son bouquin, ça peut arriver. Et dans la plupart des cas dans l'histoire, parce que le cas de 95, avec les 1000 meetings, etc., est un cas unique. J'en avais parlé avec Blondel à l'époque, j'ai dit, mais ça ressemble à rien, ton truc. T'as organisé, et effectivement, ça a marché. Mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas, parce que ça ne se programme pas. Mais il faut être présent, avec de vrais outils, autonomes, avec des revendications de classe claires, et le mouvement peut démarrer, effectivement.
On peut peut-être arrêter là-dessus, ouais, ça me paraît
même,
tout à fait
même plutôt
une bonne conclusion.
Ouais, c'est ça. C'est...
Voilà, donc on ne peut que vous recommander de lire La Confédération Générale du Travail d'Émile Pouget, donc préfacé par Gérard Da Silva, aux éditions L'Harmattan, et à un prix tout à fait abordable pour 13 euros. Donc 13 euros pour faire la révolution, ça allez, vaut tiens, le coup d'investir.
Tu m'en mets deux.
Allez, Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Bon.
Les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons.
La grandeur de la poudre qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perce ses dents.
La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille fonde sur nous, amis chantons.
La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau.
Des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution.
Thank you. c'était il y a 10 ans. Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas. Et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr. Et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant, votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission du samedi Les Chroniques syndicales du premier samedi du mois, animée par des militants de la CNT Solidarité Ouvrière de la région parisienne. Alors aujourd'hui, comme le mois précédent, eh bien on va consacrer une partie de l'émission à des luttes sociales. Tout d'abord en faisant une jonction.